des classements de milliardaires aux rapports mondiaux sur la fortune. Pour aller plus loin, et pour estimer la part du décile, du centile ou du millième supérieur de la hiérarchie mondiale des fortunes, il faut utiliser des sources fiscales et statistiques du type de celles que nous avons mobilisées dans le chapitre 10. Nous avions alors constaté une hausse tendancielle des inégalités patrimoniales dans tous les pays riches depuis les années 1980-1990, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que l'on retrouve cette tendance au niveau de la planète tout entière. Malheureusement, les sources disponibles sont entachées de multiples approximations. Il est possible que nous sous-estimions la tendance à la hausse dans les pays riches, et par ailleurs de nombreux pays émergents manquent à l'appel, dans le sens où les sources disponibles sont tellement approximatives, notamment du fait de l'absence d'une fiscalité progressive adéquate, qu'on hésite parfois à les utiliser, si bien qu'il est très difficile à l'heure actuelle de prétendre pouvoir estimer de façon précise l'évolution de la part du décile, du centile ou du millième supérieur au niveau mondial. Depuis quelques années, afin de répondre à une demande sociale croissante d'informations sur ces questions, plusieurs institutions financières internationales ont pris le relais des magazines et ont tenté d'étendre leur classement en publiant des rapports mondiaux sur la richesse allant au-delà des seuls milliardaires. En particulier, le Crédit Suisse, l'une des principales banques helvétiques, publie chaque année depuis 2010 un ambitieux rapport sur la répartition mondiale du patrimoine couvrant l'ensemble de la population de la planète. D'autres banques et compagnies d'assurance, Merrill Lynch, Allianz, etc., se sont spécialisées dans l'étude de la population des millionnaires en dollars au niveau mondial, les fameux HNIW, High Net Worth Individuals. Chacune veut son rapport, de préférence sur papier glacé. Il est bien sûr ironique de voir les institutions vivant pour une large part de la gestion de fortune se mettre à remplir le rôle des administrations statistiques officielles et tenter de produire des connaissances désintéressées sur la répartition du patrimoine dans le monde. Il faut également reconnaître que ces rapports sont souvent amenés à faire des hypothèses et des approximations héroïques, et pas toujours convaincantes, pour parvenir à une vision véritablement mondiale du patrimoine. En tout état de cause, ces rapports ne couvrent en général que les toutes dernières années, ou au maximum les 10 dernières années, et ne permettent malheureusement pas d'étudier les évolutions à long terme, ni même d'établir des tendances véritablement fiables concernant l'inégalité mondiale des patrimoines, compte tenu de la nature extrêmement parcellaire des données utilisées. De la même façon que les classements Forbes et assimilés, ces rapports ont cependant le mérite d'exister et témoignent en creux du fait que les administrations statistiques nationales et internationales, et dans une large mesure la communauté des chercheurs, ne jouent pas le rôle qu'elles devraient remplir sur cette question. Il s'agit d'abord d'un enjeu de transparence démocratique. En l'absence d'informations fiables et globales sur la répartition des patrimoines, il est possible de dire tout et son contraire, et d'alimenter tous les fantasmes, dans un sens ou dans un autre. De tels rapports, si imparfaits soient-ils, et en attendant que les uns et les autres remplissent le rôle qu'on espère d'eux, peuvent contribuer à mettre un peu de contenu et de discipline dans le débat public. Par exemple, de nombreux médias français habitués depuis des années à décrire l'Hexagone comme sujet à une fuite massive de ses patrimoines les plus élevés, sans vraiment chercher à vérifier l'information autrement que par quelques anecdotes individuelles, ont été étonnés de constater chaque automne depuis 2010 dans les rapports du Crédit Suisse que la France apparaît comme le leader européen de la fortune. Le pays est systématiquement classé numéro 3 mondial, derrière les États-Unis et le Japon, et nettement devant le Royaume-Uni et l'Allemagne, du classement des pays hébergeant le plus grand nombre de millionnaires en dollars. Si l'on adopte la même démarche globale que ces rapports, et si l'on confronte les différentes estimations disponibles, on peut aboutir approximativement à la conclusion suivante. L'inégalité de la répartition des patrimoines au niveau mondial au début des années 2010 apparaît comparable par son ampleur à celle observée au sein des sociétés européennes vers 1900-1910. La part du millième supérieur semble être actuellement de près de 20% du patrimoine total, celle du centile supérieur d'environ 50% du patrimoine total et celle du décile supérieur paraît comprise entre 80 et 90%. La moitié inférieure de la population mondiale possède sans aucun doute moins de 5% du patrimoine total. Concrètement, les 0,1% les plus riches de la planète, soit environ 4,5 millions d'adultes sur 4,5 milliards, semblent détenir un patrimoine net moyen de l'ordre de 10 millions d'euros, soit près de 200 fois le patrimoine moyen au niveau mondial, environ 60 000 euros par adulte, d'où une part dans le patrimoine total de près de 20%. Les 1% les plus riches, soit environ 45 millions d'adultes sur 4,5 milliards, possèdent un patrimoine moyen de l'ordre de 3 millions d'euros. Il s'agit grosso modo de la population dépassant 1 million d'euros de patrimoine individuel, soit 50 fois le patrimoine moyen, d'où une part dans le patrimoine total de l'ordre de 50%. Il est important d'insister sur les incertitudes considérables entourant ces estimations, y compris pour le patrimoine total et moyen mondial, qui doivent davantage encore que toutes les statistiques mentionnées dans ce livre être considérées comme de simples ordres de grandeur permettant de fixer les idées. Il faut également souligner que cette très forte concentration patrimoniale, sensiblement plus forte que celle observée à l'intérieur des pays, provient pour une large part des inégalités internationales. Au niveau mondial, le patrimoine moyen est d'à peine 60 000 euros par adulte, si bien que de très nombreux habitants des pays développés, y compris au sein de la classe moyenne patrimoniale, apparaissent très riches au niveau de la hiérarchie mondiale considérée dans son ensemble. Pour cette même raison, il n'est pas certain que les inégalités patrimoniales considérées dans leur ensemble s'accroissent véritablement au niveau mondial. Il est possible que les effets de rattrapage entre pays l'emportent actuellement sur les forces de divergence, au moins pendant un certain temps. Les données disponibles ne permettent pas de trancher de façon certaine à ce stade. Tous les éléments dont nous disposons laissent cependant à penser que les forces de divergence sont d'ores et déjà dominantes au sommet de la hiérarchie mondiale des patrimoines. Cela vaut non seulement pour les patrimoines des milliardaires du classement Forbes, mais sans doute également pour les patrimoines de l'ordre de 10 millions ou 100 millions d'euros. Or, cela représente des masses beaucoup plus importantes de personnes et donc de fortunes. Le groupe social constitué par le millime supérieur, 4,5 millions de personnes détenant en moyenne de l'ordre de 10 millions d'euros, possède environ 20% du patrimoine mondial, ce qui est beaucoup plus substantiel que le 1,5% détenu par les milliardaires de Forbes. Il est donc essentiel de bien comprendre l'ampleur du mécanisme de divergence susceptible d'affecter un tel groupe, ce qui dépend notamment de l'inégalité des rendements du capital à ce niveau de portefeuille. Cela déterminera si cette divergence au sommet est suffisamment forte pour l'emporter sur la force de rattrapage internationale. Le processus de divergence est-il massif uniquement au sein des milliardaires, ou bien l'est-il tout autant pour les groupes immédiatement inférieurs? Par exemple, si le millime supérieur bénéficie d'une croissance de son patrimoine de 6% par an, alors que la progression du patrimoine moyen mondial n'est que de 2% par an, cela impliquerait au bout de 30 ans que sa part dans le capital de la planète aura plus que triplé. Le millime supérieur détiendrait alors plus de 60% du patrimoine mondial, ce qui est assez difficile à concevoir dans le cadre des institutions politiques actuelles, sauf à imaginer un système répressif particulièrement efficace ou bien un appareil de persuasion extrêmement puissant, ou les deux à la fois. Et si ce groupe bénéficie d'une croissance de son patrimoine de seulement 4% par an, il en résultera tout de même un quasi-doublement de sa part, qui passerait à près de 40% du patrimoine mondial en l'espace de 30 ans. Là encore, cela impliquerait que cette force de divergence au sommet de la hiérarchie l'emporte nettement sur les forces de rattrapage et de convergence au niveau mondial, si bien que la part du décile et du centile supérieur augmente sensiblement avec de fortes redistributions des classes moyennes et moyennes supérieures mondiales vers les très riches. Il est probable qu'un tel appauvrissement des classes moyennes susciterait de violentes réactions politiques. Il est bien sûr impossible à ce stade d'être certain qu'un tel scénario soit sur le point de se produire, mais il est important de réaliser que l'inégalité R supérieure à G, doublée de l'inégalité du rendement du capital en fonction du niveau initial de la fortune, peut potentiellement conduire la dynamique mondiale de l'accumulation et de la répartition des patrimoines vers des trajectoires explosives et des spirales inégalitaires hors de tout contrôle. Comme nous allons le voir, seul un impôt progressif sur le capital prélevé au niveau mondial, ou tout du moins au niveau de zones économiques régionales suffisamment importantes, comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, peut permettre de contrecarrer efficacement une telle dynamique. Héritiers et entrepreneurs dans les classements de fortune. L'un des enseignements les plus frappants des classements Forbes est qu'au-delà d'un certain seuil, toutes les fortunes, héritées ou entrepreneuriales, progressent à des rythmes extrêmement élevés, que le titulaire de la fortune en question exerce ou non une activité professionnelle. Il ne faut certes pas surestimer la précision des conclusions que l'on peut tirer de ces données, qui ne portent que sur un nombre réduit d'observations et qui sont issues d'un processus de collecte relativement approximatif et parcellaire. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un fait intéressant. Prenons un exemple particulièrement clair, tout en haut de la hiérarchie mondiale du capital. Entre 1990 et 2010, la fortune de Bill Gates, fondateur de Microsoft, leader mondial des systèmes d'exploitation, incarnation de la fortune entrepreneuriale, numéro 1 du classement Forbes pendant plus de 10 ans, est passée de 4 milliards de dollars à 50 milliards de dollars. Dans le même temps, celle de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, leader mondial des cosmétiques fondé par son père Eugène Schüller, inventeur génial en 1907 de teinture pour cheveux promise à un grand avenir, à la façon de César Birotteau un siècle plus tôt, est passé de 2 milliards à 25 milliards de dollars, toujours selon Forbes. Dans les deux cas, cela correspond à une progression annuelle moyenne de plus de 13% par an entre 1990 et 2010, soit un rendement réel de l'ordre de 10-11% par an, si l'on retire l'inflation. Autrement dit, Liliane Bettencourt n'a jamais travaillé, mais cela n'a pas empêché sa fortune de progresser exactement aussi vite que celle de Bill Gates, l'inventeur, dont le patrimoine continue d'ailleurs de croître tout aussi rapidement depuis qu'il a cessé ses activités professionnelles. Une fois une fortune lancée, la dynamique patrimoniale suit sa logique propre et un capital peut continuer de progresser à un rythme soutenu pendant des décennies simplement du fait de sa taille. Il faut en particulier souligner qu'au-delà d'un certain seuil, les effets de taille, liés notamment aux économies d'échelle dans la gestion du portefeuille et dans la prise de risque, sont renforcés par le fait que le patrimoine peut se recapitaliser presque intégralement. Avec un patrimoine d'un tel niveau, le train de vie du détenteur absorbe au maximum quelques dixièmes de pourcent du capital chaque année et la quasi-totalité du rendement peut donc être réinvestie. Avec un capital de 10 milliards d'euros, il suffit de consacrer l'équivalent de 0,1% du capital à la consommation pour financer un train de vie de 10 millions d'euros. Si le rendement obtenu est de 5%, cela signifie que le taux d'épargne sur ce rendement est de 98%. Il passe à 99% si le rendement est de 10%. Dans tous les cas, la consommation est insignifiante. Il s'agit là d'un mécanisme économique élémentaire, mais néanmoins important, et dont on sous-estime trop souvent les conséquences redoutables pour la dynamique à long terme de l'accumulation et de la répartition des patrimoines. L'argent tend parfois à se reproduire tout seul. Cette réalité crue n'avait pas échappé à Balzac, par exemple, quand il fait le récit de l'irrésistible ascension patrimoniale de l'ex-ouvrier vermicellier. Le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. On peut également noter que Steve Jobs, qui plus encore que Bill Gates incarne dans l'imaginaire collectif le symbole de l'entrepreneur sympathique et de la fortune méritée, ne possédait en 2011 au sommet de sa gloire et des cours boursiers de sa société Apple qu'à peine 8 milliards de dollars. Soit 6 fois moins que le fondateur de Microsoft, pourtant moins inventif que le fondateur d'Apple, d'après de nombreux observateurs, et 3 fois moins que Liliane Bettencourt. Dans les classements Forbes, on trouve des dizaines d'héritiers plus riches que Jobs. De toute évidence, la fortune n'est pas qu'affaire de mérite. Cela s'explique notamment par le fait que les patrimoines hérités parviennent souvent à obtenir un rendement très élevé du simple fait de leur taille initiale. Il est malheureusement impossible de poursuivre plus loin ce type d'investigation, car les données de type Forbes sont beaucoup trop limitées pour permettre des analyses systématiques et fiables, contrairement par exemple aux données sur les dotations universitaires que nous utiliserons plus loin. En particulier, il faut souligner que les méthodes utilisées par les magazines conduisent à sous-estimer de façon significative l'importance des fortunes héritées. Les journalistes ne disposent en effet d'aucune liste fiscale ou administrative complète permettant de repérer les fortunes. Ils fonctionnent donc sur une base pragmatique, en rassemblant des informations de sources très disparates, souvent en passant des coups de téléphone ou en envoyant des mails, ce qui permet d'obtenir des informations certes irremplaçables, mais pas toujours très fiables. Ce pragmatisme n'est pas condamnable en soi, il est avant tout la conséquence du fait que la puissance publique n'organise pas correctement la collecte d'informations sur ce sujet, à partir par exemple de déclarations annuelles de patrimoine, ce qui remplirait une très utile mission d'intérêt général et pourrait se faire en grande partie de façon automatisée grâce aux technologies modernes. Mais il est important d'en apprécier les conséquences. En pratique, les journalistes des magazines partent notamment des listes des grandes entreprises cotées et cherchent à déterminer la structure de leur actionnariat. Ce processus implique par nature qu'il est beaucoup plus difficile de repérer les fortunes héritées, qui sont souvent placées dans des portefeuilles relativement diversifiés, que les fortunes entrepreneuriales ou en voie de constitution, qui en règle générale sont plus fortement concentrées sur une seule entreprise. Pour les patrimoines hérités les plus importants, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros, sans doute peut-on supposer que les actifs demeurent placés pour une large part dans l'entreprise familiale, comme les actifs de la famille Bettencourt dans L'Oréal ou bien la famille Walton dans Walmart aux États-Unis. Auquel cas, ces fortunes sont tout aussi aisément détectables que celles de Bill Gates ou de Steve Jobs. Mais cela n'est sans doute pas le cas à tous les niveaux. Dès lors que l'on descend autour de quelques milliards de dollars, d'après Forbes, il y a chaque année plusieurs centaines de fortunes nouvelles de ce niveau dans le monde, et plus encore au niveau de quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros, il est probable qu'une part importante des fortunes héritées prenne la forme de portefeuilles relativement diversifiés, auquel cas il est très difficile pour les journalistes des magazines de les détecter, d'autant plus que les personnes en question ont en général beaucoup moins envie de se faire connaître publiquement que les entrepreneurs. Pour cette simple raison de biais statistique, il est inévitable que les classements de fortune tendent à sous-estimer l'importance des fortunes héritées. Certains magazines, comme Challenge en France, précisent d'ailleurs qu'ils cherchent uniquement à répertorier les fortunes dites « professionnelles », c'est-à-dire investies principalement dans une entreprise particulière, et que les patrimoines prenant la forme de portefeuilles diversifiés ne les intéressent pas. Le problème est qu'il est difficile d'obtenir de leur part une définition précise de ce qu'ils entendent par là. Faut-il dépasser un certain seuil de détention du capital de la société pour être classé comme fortune professionnelle? Ce seuil dépend-il de la taille de la société, et si oui, suivant quelle formule? En réalité, le critère pour être retenu paraît surtout très pragmatique. Figurent dans le classement les fortunes dont les journalistes ont eu connaissance et qui remplissent le critère fixé. Dépasser le milliard de dollars dans le cas de la liste de Forbes, ou bien faire partie des 500 plus grandes fortunes répertoriées pour un pays donné dans le cas de Challenge et de nombreux magazines dans d'autres pays. Ce pragmatisme peut se comprendre, mais on voit bien qu'un mode d'échantillonnage aussi imprécis pose de sérieux problèmes si l'on souhaite faire des comparaisons dans le temps ou entre pays. Si l'on ajoute à cela le fait que ces classements, qu'ils soient réalisés par Forbes, Challenge ou d'autres magazines, ne sont jamais très clairs sur l'unité d'observation, il s'agit en principe de l'individu mais parfois des groupes familiaux entiers sont inclus dans une même fortune, ce qui crée un biais allant dans l'autre sens puisque cela tend à exagérer la taille des hauts patrimoines, on voit alors à quel point ces matériaux sont fragiles pour étudier la question délicate de la part de l'héritage dans la formation des patrimoines ou de l'évolution des inégalités patrimoniales. Il faut ajouter qu'il existe souvent dans ces magazines un biais idéologique assez évident en faveur des entrepreneurs et une volonté à peine voilée de les célébrer, quitte à en exagérer l'importance. Ce n'est pas faire injure au magazine Forbes que de remarquer qu'il peut souvent être lu et qu'il se présente d'ailleurs lui-même comme un hymne à l'entrepreneuriat et à la fortune utile et méritée. Le propriétaire du magazine, Steve Forbes, lui-même milliardaire, deux fois candidat malheureux à l'investiture présidentielle pour le Parti républicain, n'en est pas moins un héritier. C'est son grand-père qui a créé en 1917 le fameux magazine, à l'origine de la fortune des Forbes, qu'il a ensuite lui-même développé. Les classements publiés par le magazine proposent d'ailleurs parfois une décomposition des milliardaires en trois groupes. Les entrepreneurs purs, les héritiers purs et les personnes qui ont hérité d'une fortune tout en la faisant fructifier. D'après les données publiées par Forbes, chacun de ces trois groupes représente généralement autour de un tiers du total, avec toutefois une tendance, selon le magazine, à la baisse de la part des héritiers purs et une augmentation de celle des héritiers partiels. Le problème est qu'aucune définition précise de ces différents groupes n'a jamais été donnée par Forbes, en particulier concernant la frontière exacte entre héritiers purs et partiels, et qu'aucun montant n'est indiqué concernant les héritages. Dans ces conditions, il est bien difficile de conclure quoi que ce soit de précis au sujet de cette possible tendance. Compte tenu de toutes ces difficultés, que peut-on dire concernant les parts respectives des héritiers et des entrepreneurs dans les plus hautes fortunes ? Si l'on prend en compte à la fois les héritiers purs et partiels des classements de Forbes, en supposant que les seconds reposent pour moitié sur l'héritage, et si l'on ajoute à cela les biais méthodologiques conduisant à sous-estimer les fortunes héritées, il semble relativement naturel de conclure que ces dernières représentent plus de la moitié des plus hautes fortunes mondiales. Une estimation autour de 60-70% semble a priori relativement réaliste, soit un niveau sensiblement inférieur à celui observé dans la France de la Belle Époque, 80-90%, ce qui pourrait s'expliquer par le taux de croissance élevé observé actuellement au niveau mondial, qui implique notamment l'arrivée rapide dans le classement de nouvelles fortunes issues des pays émergents. Mais il ne s'agit que d'une hypothèse et non d'une certitude.